Et on va continuer en fait dans la lignée du travail qui a été fait ce matin, toujours sur examiner un petit peu les spécificités, les convergences entre les disciplines. Ce matin, donc, vous avez vu des concepts qui passaient au travers des disciplines, les regards qui étaient portés. Et là, on va revenir sur cette enquête dont on vous a parlé le premier jour, en fait, pour essayer de regarder au travers de cette enquête, non pas les démarches d'investigation globale, comme ça vous a été présenté un petit peu le premier jour, mais dans cette enquête qui était très large, qui posait des questions différentes, de regarder un petit peu ce que les enseignants, qu'est-ce que représentaient pour les enseignants des concepts méthodologiques forts des démarches, tels que problème, hypothèse, modèle, expérience. Voilà un petit peu l'objet de cette présentation. Donc sur cette enquête, en fait, juste pour vous montrer, si un jour vous voulez retourner voir le rapport, on sondait les représentations des enseignants, encore dans d'autres domaines que j'évoque vite ici. Il y avait pour les enseignants, quel est le statut des savoirs scientifiques et des modalités d'élaboration de ces savoirs. Sur les modalités d'apprentissage, démarche d'investigation, c'est ce qui vous a été présenté le premier jour. Et puis ce qu'on va regarder maintenant, donc, sur les concepts, problèmes, hypothèses, expériences et modèles. Donc sur la méthodologie, on l'a déjà évoqué, j'avais déjà parlé de la population qui était ciblée, enseignants du secondaire des quatre disciplines qui ont pour prescription commune, qui ont les mêmes prescriptions communes relatives aux démarches d'investigation. La date, je n'avais pas indiqué la première fois, donc c'est un questionnaire qui est passé le premier trimestre de 2011. Et je n'avais pas présenté non plus la dernière fois la représentativité dans chacune des disciplines. Donc vous voyez qu'il y a une certaine distorsion dans le nombre de répondants pour chacune des disciplines. Les plus nombreux étaient en sciences physiques, les moins nombreux étaient en mathématiques, on va dire entre 4 et 700 à peu près. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein des disciplines, il y a une représentativité de l'échantillon par rapport à la population globale des enseignants de France. On a comparé les populations entre la population de référence qui est donnée par l'ADEP et notre échantillon. Et globalement, on a des distorsions qui sont très faibles au sein des disciplines. Alors on va commencer par le premier de ces concepts méthodologiques, celui de problème. Celui de problème, en fait, qu'est-ce qu'on a essayé de regarder dans nos questions? Qu'est-ce que nos questions essayaient de sonder? Elles essayaient de sonder trois dimensions. C'était d'une part au niveau des situations d'apprentissage qui peuvent être proposées au travers de la résolution de problèmes. Est-ce qu'il s'agit plutôt de problèmes ouverts, hein, au sens de ARSAC, c'est-à-dire des problèmes qui vont engager les élèves dans des activités de recherche, qui ont surtout pour objectif le développement de compétences méthodologiques, donc des problèmes ouverts, au contraire des problèmes qui se ferment, guidés, des exercices d'application. Ou est-ce qu'on était plutôt sur des problèmes de type situation-problème, c'est-à-dire des problèmes qui ont pour objectif des notions du programme, en fait, de construire des savoirs du programme. Le deuxième axe qu'on a essayé de sonder, c'était la nature du problème. Est-ce qu'on est dans des problèmes qui sont de type explicatif, on essaye de comprendre un fonctionnement, ou est-ce qu'on est dans des problèmes de type plutôt pragmatique, c'est-à-dire en fait comment faire pour arriver, chercher une solution. Et le troisième axe qu'on a essayé de sonder, c'était en fait à partir de quoi... comment est-ce que les élèves allaient pouvoir identifier, s'approprier le problème? Qu'est-ce qui était pourtant important pour les enseignants? Et notamment, on a essayé de regarder la place de l'observation, du réel, du concret, et puis des connaissances, des acquis des élèves. Alors pour ça, il y avait deux types de questions. Et ça, on va le retrouver dans la structure du questionnaire, vous verrez pour chacun des termes. En fait, on proposait une série de... Il y avait une série de propositions un peu de type définition du terme. Donc là, pour problème, il y avait 8 propositions. Et en fait, les enseignants devaient choisir une seule. Ça veut dire qu'en fait, quand ils choisissent une proposition, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas peut-être d'accord avec d'autres propositions, mais ça permet de bien mettre en relief, en fait, qu'est-ce qui est le plus fort pour eux. Et puis ensuite, il y avait une série de questions qui essayaient de voir, en fait, qu'est-ce que mettre un... Dans le cadre d'une démarche d'investigation, un problème, ça va impliquer, qu'est-ce que ça implique? Et là, les réponses aussi demandaient, t'es tranché, c'était oui ou non, ce qui peut être un peu frustrant, parce que souvent, on a envie de taper au milieu, mais quand on tape au milieu, on ne dit rien. Donc, en fait, notre questionnaire était construit pour mettre en relief les éléments On les exacerbe au maximum pour voir ce qui ressort. En fait. Alors, le problème du côté des situations d'apprentissage, à la question quelle est la proposition qui définit selon vous le mieux le terme problème dans votre discipline, hein, chacun se positionnait du point de vue de son discipline, on a les deux tiers des répondants pour qui un problème c'est l'une des trois propositions suivantes, c'est-à-dire une question qui permet la formulation de propositions, d'hypothèses ou de conjectures, une question qui débouche sur une démarche explicative, une question qui débouche sur une recherche de solutions. Alors ces propositions, en finesse, elles ont des différences, mais globalement, toutes, elles sont sur l'idée d'une démarche qui entraîne les élèves dans une résolution de problème. Et on avait aussi dans les implications, pour presque la totalité des répondants, en fait, ils retiennent un problème peut être résolu de différentes façons et un problème mobilise différentes compétences. Donc on est de façon marquée pour à peu près toutes les disciplines et en forte proportion, c'est vraiment l'idée qu'un problème, en fait, ça engage les élèves dans une démarche de résolution, dans des activités de recherche, ça développe des compétences, des attitudes, on est du côté plus des problèmes ouverts, en fait. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en relief comme spécificité, en fait, dans les réponses. Si on regarde du côté de la nature du problème, on voit que parmi les trois propositions que j'ai proposées, là, on a une question qui débouche sur une recherche de solution, va être choisie de façon prépondérante en maths et en technologie, autrement dire des problèmes plus pragmatiques, comment faire en fait, quelle stratégie mettre en œuvre pour concevoir, pour fabriquer, pour trouver une solution. Alors qu'en sciences expérimentales, SVT, SPC, les propositions qui sont plus retenues, c'est une question qui débouche sur une démarche explicative ou une question permettant la formulation de propositions, d'hypothèses ou de conjectures. C'est-à-dire des problèmes plutôt explicatifs, comment expliquer, comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc on retrouve au travers de ces réponses, en fait, des éléments qui sont liés aux disciplines, qui sont liés au programme, mais les programmes étant aussi guidés par les disciplines de référence, où en sciences expérimentales, on avait vu dans la première séance comprendre le monde, comprendre la nature, comprendre les objets, comprendre le monde de la matière, alors qu'en technologie, dans l'histoire de la discipline, on est plus dans produire, dans des démarches de conception, avec une démarche d'investigation en fait qui est très nouvelle pour la discipline. Donc interroger un objet et chercher son fonctionnement, c'était pas dans les programmes antérieurs, c'est quelque chose qui est plus présent aujourd'hui. Et puis les mathématiques qui sont finalement à cheval entre des problèmes où il s'agit de rechercher des solutions, des stratégies à mettre en œuvre ou expliquer partir sur des conjectures. Le deuxième point, une autre proposition qui est retenue, une question permettant de construire des connaissances. Donc on voit qu'elle est retenue, 5 à 8% selon les disciplines, mais elle est retenue de façon marginale. Alors ça ne veut pas dire que pour les enseignants, mettre en œuvre des résolutions de problèmes, leur objectif, ce n'est pas de construire des connaissances, mais comme ils n'avaient qu'un seul choix dans leur proposition, ce qu'ils retiennent d'abord, c'est des problèmes ouverts. Et puis, ceux qui sont vraiment attachés au fait qu'il fallait construire des connaissances, c'est retenu de façon beaucoup plus marginale. Autrement dit, la situation problème, elle est retenue, mais de façon beaucoup plus éloignée. D'autres propositions qui étaient proposées, c'est un exercice permettant de réinvestir des connaissances ou une succession de questions articulées entre elles. Et là, on voit que c'est retenu de façon marginale et de façon un peu plus importante en mathématiques, où la résolution de problèmes, c'est quelque chose de guidé, c'est un exercice d'application avant d'être un autre type de problème. Alors, on retrouve aussi, quand on regarde les mathématiques, en fait, et quand on regarde dans les programmes, on voit bien qu'on incite à faire des démarches d'investigation. Je dirais qu'en science, on incite entre guillemets qu'à ça. Et en mathématiques, on donne l'importance aussi des exercices d'application qui sont nécessaires pour acquérir aussi un certain nombre de routines et avoir des outils qui permettent ensuite de rentrer dans des démarches d'investigation. Dans les spécificités sur l'identification et l'appropriation du problème, un problème implique, alors on voit qu'en sciences expérimentales de façon la plus forte, c'est un ancrage, sciences physiques et technologies. Sciences physiques et technologies, ce qui est le plus fort, c'est un ancrage, en fait, dans la vie quotidienne, dans l'actualité. En sciences expérimentales et en technologie, c'est un ancrage, un problème qui est suscité par l'observation. Donc l'observation a un rôle très important qu'on voit qu'en SVT, c'est 95%, c'est-à-dire qu'on rentre dans un problème par une observation. Et un appui sur des acquis, c'est retenu par un enseignant sur deux, je dirais, en sciences expérimentales et en technologie. On voit qu'en mathématiques, l'ancrage dans le réel et dans l'observation est beaucoup plus faible et que la nécessité d'acquis est plus forte. Mais globalement, beaucoup moins retenu par les enseignants que la dimension du réel, je dirais. Alors si on regarde un peu les points remarquables, hein, on a bien compris qu'on essaie de mettre en exergue les points remarquables. Au niveau du problème, en fait, on a des problèmes de nature différente qui engagent dans des démarches, mais pas obligatoirement de nature hypothético-déductive, ce n'est pas obligatoirement la nécessité de formuler des hypothèses ou des conjectures. Je reviendrai dessus. Et qui visent le développement de compétences et d'attitudes. Donc on voit que la démarche d'investigation des problèmes, on est beaucoup plus du côté de démarches d'investigation plurielles, en fait, hein, pour engager les élèves dans des activités de recherche. C'est quand même ça qui domine chez les enseignants. Et après, on a des spécificités. Et on voit un autre point que je voulais bien faire ressortir, c'est qu'en sciences et en technologie, c'est l'importance de l'observation pour formuler un problème. Cette notion de primauté de l'observation, vraiment l'observation qui est première, avec peut-être un petit peu l'idée d'une observation un peu naïve, quelquefois, peut-être dans les représentations, alors qu'une observation n'est jamais naïve, elle est guidée par des connaissances, par l'expérience de l'individu. Elle est interprétée en soi si le prof de biologie qui connaît très bien quelque chose, il va aller regarder sous son microscope, il voit très très bien une coupe de tige par exemple, je pense qu'il peut montrer cette coupe de tige à plein de personnes, ils ne verront strictement rien parce qu'ils ne savent pas à quoi ça ressemble en fait.
Ou ils ne verront pas la même chose en tout cas.
Ou ils ne verront pas du tout la même chose. C'est pour ça que le deuxième point, je disais qu'un même objet en fait, il pourrait être questionné de façon différente selon les disciplines et l'idée qu'une observation elle est orientée. On peut tous regarder un même objet, on va voir des choses. Ouais, mais on ne verra pas forcément les mêmes choses. Parce qu'il est guidé par des connaissances, par des acquis, par des expériences, par ce qu'on recherche, et on n'identifiera pas la même chose. Donc quand le prof il a une grande idée que faire observer le problème va émerger de la tête de l'élève, l'élève il n'a pas forcément les mêmes acquis, il ne voit pas forcément de la même façon, et il ne fait pas forcément émerger le même problème. Il faut déjà qu'il se mette la position de la discipline que vous êtes en train de lui enseigner. Sans ça, il va pouvoir peut-être voir des choses, mais qui sont justes aussi, mais qui ne sont pas celles que vous attendez. Le deuxième terme qui est interrogé, enfin le terme mixte, hein, enfin divers, il y a une diversité, le terme hypothèse explicative et conjecture. Alors, les démarches d'investigation telles qu'elles sont préconisées dans les programmes et telles qu'elles sont décrites, en fait, elles ne sont pas aussi larges que celles qu'on a choisi d'étudier. Elles sont beaucoup plus resserrées, et c'est Mathé qui le dit, mais pas uniquement, en fait, c'est que c'est plutôt la transposition d'une démarche scientifique de type hypothético-déductive, c'est-à-dire un problème, une formulation d'hypothèses et de conjectures, un test de ces hypothèses et de ces conjectures. Et hypothèses et conjectures est donc vraiment le pivot des démarches hypothético-déductives, où vraiment c'est à l'articulation d'un contexte de découverte, il s'agit de découvrir, avec une forme de découverte pour découvrir pour faire émerger, pour élaborer des hypothèses, qui ensuite devront être éprouvées. Alors, pour faire émerger ces hypothèses, il y a tout un travail d'élaboration, en fait, et elles n'émergent pas de rien, en fait. Donc, Carrieu met en avant, après les... Je ne vais pas revenir. Bon, Carrieu met en avant l'importance de toute une série de données initiales sur lesquelles on va s'appuyer pour pouvoir élaborer des hypothèses, que ce soit des représentations initiales des élèves, leur acquis scolaire antérieur, des théories, des modèles, des observations, des expériences de tâtonnement pour voir. Donc dans cette formulation d'hypothèses, il y a une part d'invention, de créativité, mais qui est en parallèle, en fait, contrôlée par un esprit rationnel en fonction des connaissances, de la théorie. Orange parle en fait de savoir apodictique, c'est-à-dire que les hypothèses, elles vont, c'est pas n'importe quelle hypothèse, il s'agit de faire émerger les hypothèses, mais de voir pourquoi en fait, et les raisons de l'hypothèse, c'est-à-dire pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça ne peut pas être comme ça. Donc le contrôle, en fait, entre les faits empiriques et la théorie. Alors c'est un peu ce cadre qui nous a guidés pour essayer d'interroger les enseignants autour des hypothèses. Alors, à la question des propositions, c'était de, tout comme pour le problème, une série de propositions qui étaient données, 40 à 84% des enseignants, selon les disciplines, choisissent une proposition provisoire destinée à être éprouvée. Autrement dit, ils choisissent une définition qui répond à la définition d'une hypothèse explicative ou d'une conjecture. Selon vous, la formulation d'une hypothèse explicative ou conjecture implique une observation du réel, de façon importante, la prise en compte des représentations initiales des élèves, un choix important, et des connaissances préalables. Donc autrement dit, pour une majorité d'enseignants, les hypothèses sont bien formulées en appui sur un certain nombre de données initiales. Elles impliquent encore des conséquences ou des implications vérifiables. Donc il s'agit bien de pouvoir éprouver ces hypothèses. Et les qualités requises, on interrogeait les enseignants sur quelles qualités, je reviendrai tout à l'heure, quelles sont les qualités requises par les élèves, et ils choisissaient des qualités, lesquelles les premières qualités qui viennent sont rigueur et créativité, donc on a bien cette ambivalence de la créativité, mais contrôlée en fait. Donc globalement, il y a une espèce de consensus chez les enseignants sur une hypothèse qui se situe dans le cadre d'une démarche hypothético-déductive. Quand on regarde de plus près, en fait, et qu'on essaye de faire émerger maintenant les spécificités, on a vu qu'une proposition provisoire destinée à être éprouvée est choisie de façon majoritaire par les enseignants, c'est la première ligne, qu'elle est prépondérante en sciences expérimentales, qu'elle est beaucoup plus faible en mathématiques, et là, en mathématiques, il y avait une certaine ambiguïté, puisque quand la question était posée volontairement, on ne faisait pas référence à aucune démarche. Donc pour un enseignant, il y a une polysémie du terme hypothèse. Est-ce qu'il devait, parce que c'était quand même un questionnaire sur démarche d'investigation, est-ce que je me positionne du côté des hypothèses conjectures ou est-ce que je me positionne du côté de l'hypothèse mathématique? Et ça peut expliquer qu'on ait finalement 40% mathématiques qui choisissent une proposition provisoire destinée à être éprouvée, et l'autre moitié qui choisissent une supposition non démontrée sur laquelle on s'appuie pour résoudre un problème. Et on peut observer qu'en technologie, c'est là où on a la plus forte dispersion des réponses. Ce qui laisse penser que les enseignants choisissent encore la proposition vérifiable correspondant à une connaissance à acquérir. L'hypothèse, c'est la connaissance qu'il faut acquérir. Et l'hypothèse, c'est n'importe quelle idée au sujet d'un problème donné. Donc il y a une dispersion qui montre un statut de l'hypothèse un peu flou en technologie, qu'on explique complètement sur le fait que la démarche hypothético-déductive n'est pas une démarche spécifiquement adaptée en fait à cette discipline. Quand on regarde sur quoi s'appuient les enseignants pour faire émerger des hypothèses, on voit qu'en sciences expérimentales, en techno, c'est l'observation, une fois de plus, qui est très forte. On voit que les connaissances préalables en sciences expérimentales sont derrière. Par contre, les représentations initiales des élèves sont très fortes. Donc on s'appuie sur les connaissances des élèves, mais plus leurs représentations que leurs acquis, en fait. Peut-être avec cette idée qu'en sciences expérimentales, on a aussi des connaissances qui sont liées au monde qui nous entoure, sur lequel on peut agir, et on s'est construit un espèce de référent empirique par le quotidien, qui est peut-être moins évident, en fait, en mathématiques. Ce qui est intéressant, c'est les réponses aussi « ne sait pas », parce qu'on pouvait répondre « oui, non », mais aussi « ne sait pas ». Donc en mathématiques, une observation du réel, on voit que c'est dans cette discipline qu'on a la plus forte réponse « ne sait pas ». Parce que les enseignants disent finalement l'observation, quel rôle joue l'observation. Et sur les connaissances ou représentations, c'est en technologie qu'on a le plus fort taux de réponse « ne sait pas ». Je reviens un petit peu sur cette idée de pensée divergente et convergente. En fait, il y avait 6 adjectifs mélangés qui étaient proposés aux enseignants, créatifs, courageux, inventifs, curieux, qui sont du côté du pôle d'une pensée divergente, et puis rigoureux, critiques, rationnels, logiques, qui sont sur le pôle d'une pensée convergente. Et on demandait aux enseignants donc d'en choisir 3. Et en fonction des 3, ça permettait de les classer sur un pôle, d'un côté ou de l'autre. Alors, le pôle bleu, de ce côté-là, vous avez un petit flash, le pôle bleu et rouge, en fait, sont classés du côté de la pensée divergente et vert et violet de la pensée convergente. Donc, finalement, les enseignants prennent en compte. La rationalité, la rigueur, la logique est importante pour formuler des hypothèses. Et on voit que c'est en SVT que le recours à cette rationalité, à cette rigueur est le plus fort. Et c'est en SPC qu'il est le plus faible, où il y a le plus une part prise en compte de la créativité, de l'invention. Non, je passe, allez.
Comme tu veux. Non, c'est bien, ça fait que...
Donc, les réponses relatives au statut sur l'hypothèse, en fait, c'est sur ce terme-là que les spécificités disciplinaires par rapport aux quatre termes dont on va parler, où elles sont le plus fortes, en fait. Et si je rappelle un peu les fortes spécificités, en SVT, on a un statut épistémologique très fort où l'hypothèse, elle doit être éprouvée, c'est une solution provisoire. La rigueur et la rationalité qui sont fortement mobilisées et une valorisation de l'observation qui sont très fortes. Donc on est vraiment dans un ancrage, dans une démarche hypothético-déductive. On peut le relier au programme de la discipline et quand on remonte dans les textes, depuis 68, on retrouve la description d'un canevas d'une démarche hypothético-déductive. En sciences physiques, l'ensemble des réponses montre que l'hypothèse est un peu moins contrainte, c'est un peu plus une idée, on fait un peu plus part à la créativité. Il y a une forte valorisation de la créativité. Mais en sciences physiques, quand on regarde l'histoire de la discipline, on voit que avant l'introduction de la démarche d'investigation, la formulation d'hypothèses n'était pas forcément beaucoup travaillée, en fait, et on était plus dans des expériences, vraiment une discipline axée sur l'expérience, où on essayait de montrer et d'illustrer à partir de l'expérience. En maths, on a vu la polysémie du terme hypothèse, qui donne une ambiguïté, et puis la faible place pour l'observation et le réel. Et en techno, un statut qui est un petit peu flou, on sent que beaucoup de réponses ne sait pas où on est exactement, et une très forte valorisation de l'observation, une démarche qui part vraiment de l'observation pour aller vers la découverte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est en technologie, quand on regarde l'histoire de la discipline, on rentre dans une démarche qui est complètement nouvelle et qui déstabilise des enseignants. Donc on voit vraiment une relation, on arrive à faire une relation entre les représentations des enseignants et les préconisations et l'histoire de ce qui a été mis en avant dans les disciplines au fil du temps.
Après donc le terme expérience, et donc je propose un tout petit tour par le texte de Marilyn Coquidet que vous avez entendu hier et qui a pas mal travaillé sur l'expérimental, alors surtout au primaire, mais enfin dans l'enseignement, pas seulement au primaire. Et là, elle fait remarquer, elle n'est pas la seule à le faire, mais elle fait remarquer que dans la langue française, le terme expérience est polysémique aussi. C'est-à-dire, on dit avoir de l'expérience quand on a quelques heures de vol, c'est-à-dire quand on a depuis un moment vécu des choses. Hein. Et donc, une cumulation empirique de choses d'expériences vécues. Et on parle de faire vivre aussi des expériences aux élèves, donc dans l'idée de vivre quelque chose. Et puis, faire une expérience, c'est plutôt réaliser un dispositif qui va permettre de tester quelque chose. Et donc, un autre sens que vivre quelque chose. Hein. Voilà. Même si on fait le dispositif en vivant quelque chose, mais quand même. Donc, les résultats de Marilyn dans ce domaine montraient, alors, ça c'est des représentations d'enseignants du primaire, que pour les enseignants du primaire, quand on disait « expérimenter pour vous, qu'est-ce que c'est ?», eh bien, ça pouvait être manipulé, et dans les deux sens, c'est-à-dire expérimenter, c'est manipuler, mais manipuler, c'est expérimenter. C'est-à-dire, peut-être pour certains, expérimenter et manipuler, c'est pareil, hein, c'est seulement ça. Ou expérimenter, c'est prouver, démontrer, ou bien c'est chercher, ou bien c'est observer, et on voit qu'on peut entrer dans différentes façons de voir l'expérience. Donc de cette analyse-là, et puis de l'analyse de nombreuses séquences de classe et des travaux sur les curricula, toujours Marilyn, elle dégage trois grands modes didactiques de l'expérimental, c'est-à-dire en gros trois façons de faire rentrer l'expérimental dans la classe avec différents buts, différents objectifs didactiques. Les objectifs de familiarisation pratique qui correspondent, enfin le mode didactique de familiarisation pratique qui correspond à permettre aux élèves d'explorer, d'apprivoiser les objets, le monde réel, etc., pour se fabriquer un référentiel matériel, apprendre à se servir des objets, apprendre à les connaître, à les toucher, etc. Non seulement chacun, mais aussi un référentiel commun pour la classe, c'est-à-dire construire ensemble une expérience vécue ensemble, commune, qui va permettre de construire après des choses dessus. Et c'est vrai que c'est beaucoup utilisé dans le primaire, mais pas seulement. En seconde, quand on apprend à manipuler un microscope en biologie, on fait de la familiarisation pratique. L'investigation empirique, il s'agit d'expérimenter pour résoudre des problèmes en articulant l'exploration et la validation. On essaye des choses, on teste, on voit ce que ça donne. Voilà. Et puis, il y a le mode d'élaboration théorique qui est décrit comme vraiment les expérimentations au service de la construction de la science pour construire certains savoirs et qui vont être soit alors illustratifs, soit très contextualisés dans une démarche, mais qui est très, très cadrée pour produire quelque chose. Alors, nous, on a demandé, sous la même façon que ce que Michel a expliqué tout à l'heure, on a proposé un nombre de définitions de l'expérience et on a demandé aux répondants de choisir celle qui leur paraissait le mieux définir l'expérience. Alors voilà, ah oui, c'est ça, j'avais dit que j'enlevais le bas, je ne l'ai pas enlevé. Donc là-dessus, vous avez en rouge les mathématiques, en bleu physique-chimie, en vert, bien sûr, les SVT, et en jaune, la technologie. Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez bien à lire ? Oui, ça va ? Donc, voyez que la définition qui sort le plus, et pour toutes les disciplines, fortement, c'est un test conçu pour éprouver une hypothèse et une mise en œuvre de stratégie pour résoudre un problème. Donc, intégrer l'expérience à l'intérieur d'une démarche plutôt hypothético-déductive ou au moins de résolution de problèmes. Attirer votre attention sur deux réponses qui sont plus spécifiquement associées aux mathématiques et qui sont une exploration d'exemples et une exploration par tâtonnement. Quand on discute, quand on regarde les réponses des enseignants de mathématiques, on voit que l'expérience en mathématiques, elle est souvent avant la conjecture, en fait. On essaye des choses, on tâtonne, on prend des exemples, on essaye, et puis de là, on se fait une idée, et après, c'est cette idée-là qu'on va essayer de démontrer, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres disciplines, en tout cas, beaucoup moins. En SVT, vous voyez dans la continuité de ce que disait Michel sur l'hypothèse tout à l'heure, le fort ancrage dans la démarche hypothético-déductive. Et puis, SPC et technologie, ces deux disciplines, fortement attachées à la manipulation de matériel. C'est-à-dire qu'on sort du matériel, on le manipule, et bien ça veut dire qu'on fait une expérience. Hein, donc, plus sur l'expérientiel, plus aussi sur la familiarisation pratique. C'est aussi en technologie, on a aussi l'observation du réel qui sort et puis le tâtonnement et donc une répartition plus large des réponses concernant les définitions. Ensuite, suivez des questions de la même façon qui essayaient de caractériser, disons, des attributs de l'expérience, qu'est-ce qu'une expérience implique. Donc, entre les quatre disciplines qui étaient interrogées, le consensus, qui sont donc indiqués en haut sur la diapositive, là, concerne la possibilité pour l'élève de se confronter aux conséquences de ses choix, c'est-à-dire aussi le retour du réel et la manipulation de matériel, sauf pour les mathématiques qui ne pensent pas vraiment beaucoup à la manipulation de matériel. Donc, un consensus sur à la fois on travaille avec du matériel et puis on va se confronter aux conséquences de ses choix. Pour chaque discipline, La question était posée de savoir si expérimenter, ça avait un lien avec travailler en groupe ou pas. Est-ce qu'on était obligé d'être en groupe pour de travail pour expérimenter? Eh bien, il n'y a pas de réponse disciplinaire. C'est-à-dire que dans chaque groupe, il y a des enseignants qui pensent que oui, il faut être... Dans chaque discipline, il y a des enseignants qui pensent que oui, il faut être au groupe, et d'autres, non. Hein. Le désaccord varie, mais il n'y a pas de spécificité particulière. Les éléments qui étaient plus qui ont été... sélectionnés plus spécifiquement par les disciplines, c'était par exemple en sciences physiques et chimiques, ne faire varier qu'un seul un facteur à la fois dans l'expérience, se questionner sur la précision des mesures, donc des questions sur la façon d'expérimenter et de construire une expérience qui a une espèce de validité. Hein, donc un questionnement plus, on peut dire, épistémologique sur la qualité de l'expérience. En mathématiques, plus spécifiquement, on avait la rédaction d'un compte-rendu de l'expérience. Alors peut-être en lien avec les relations, les narrations de recherche, je ne sais pas, ce serait à discuter. Et puis l'idée de pouvoir valider une solution. Et il y avait aussi beaucoup de « ne sais pas » en mathématiques sur l'expérience, qui n'est peut-être pas comment dire, l'étendard des mathématiques comme elle l'est, par exemple, des sciences expérimentales qui ont carrément porté l'expérience en bandoulière dans leur nom, quoi. Et puis, je fais bien la bandoulière. Et puis, en SVT, donc, on revient sur la conception d'un témoin, ne faire varier qu'un facteur à la fois, et la nécessité d'une hypothèse préalable. Donc, c'est vraiment l'expérience pour valider quelque chose. Et pour valider, il faut des facteurs de validité interne, comme le témoin, le facteur, qu'un seul facteur qui varie, et puis une hypothèse préalable. En technologie, il y a l'histoire de valider une solution. Puisque souvent on cherche, comme Michel le disait tout à l'heure, des solutions à un problème, eh bien, expérimenter, c'est essayer de voir si la solution qu'on a trouvée fonctionne. La rédaction d'un compte-rendu ressortait aussi avec la confrontation au réel et la manipulation de matériel. Encore plus, voilà. Voilà. On y reviendra tout à la fin, si vous voulez. Le terme maintenant, donc le dernier terme qu'on a placé dans le questionnaire, c'était le terme modèle, parce qu'il nous semblait que même s'il était beaucoup moins, et c'est pas un terme qui est beaucoup écrit dans la description des démarches d'investigation, la description par exemple de collège, du programme de l'introduction commune des disciplines, mais il nous a semblé que c'était quand même, en tout cas, l'action de modélisation et l'utilisation de modèles, quelque chose qui était important dans les démarches d'investigation et dans les démarches scientifiques en général. Et donc, ça valait le coup de questionner ce terme aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on va trouver beaucoup de définitions différentes. Tout le monde n'est pas obligatoirement d'accord. J'en propose trois ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Des modèles qui sont vus comme des instruments d'intelligibilité, des instruments de pensée. C'est souvent qu'on trouve le modèle comme un outil pour réfléchir. Ou un objet intermédiaire entre le réel, donc le concret perceptible, donc dans le champ empirique, et la pensée, la matrice, la théorie, l'ensemble des savoirs et des connaissances qu'on va confronter au réel pour progresser dans sa compréhension. Donc le modèle comme un élément un peu intermédiaire entre deux champs, le champ empirique et puis le champ conceptuel. Et puis Sanchez aussi qui parle des instruments, donc là qui le place plutôt dans la classe comme un instrument qui va permettre aux élèves de construire son investigation, de donner du sens à ce qu'il est en train de faire dans la classe. Et donc, de décliner ses activités d'investigation en lien avec, par exemple, la validité d'un modèle qui est proposé au départ ou qui est construit par les élèves. Alors, on n'a pas proposé de définition de modèle dans les questions parce que on a trouvé que c'était difficile de faire comme ça. On s'est plutôt... On va plutôt proposer aux gens de donner des fonctions des modèles et des formes des modèles qu'ils utilisaient. Donc en ce qui concerne les fonctions, quand on recherche dans la bibliographie, on trouve, alors j'ai mis Par exemple, j'ai mis l'exemple de Martinan. Il y a pas mal de fonctions différentes qui sont données par différents auteurs, mais en tout cas, la fonction de représentation, c'est quelque chose qui est très partagé par les auteurs qui parlent de modélisation et de modèle. Il y a une fonction d'explication, de compréhension, prévoir, c'est-à-dire on fait un modèle pour anticiper sur ce qui va se produire, le modèle d'évolution du climat, par exemple. Hein. Et puis, d'une autre couleur, parce qu'il est cité par Martinan, mais pas toujours, dans les approches technologiques, il y a aussi des modèles de conception qui ne sont pas repris obligatoirement par les auteurs qui réfléchissent sur d'autres disciplines. Alors, dans le questionnaire, on demandait de choisir et de classer des fonctions des modèles. Et donc, ce que vous avez sur ce graphique, toujours avec les mêmes couleurs de tout à l'heure, donc maths en rouge, SPC en bleu, SVT en vert et technologie en jaune, vous avez le pourcentage d'enseignants qui ont, enfin de répondants qui ont sélectionné dans les trois premiers rangs chacune des propositions. D'accord ? Alors, ce qui ressort le consensus, c'est représenter. C'est-à-dire que pour toutes les disciplines, c'est important que le modèle a une fonction de représentation. Ah, mais je trouvais que c'était pas assez gros, mais je me souvenais plus que j'avais. Et l'autre fonction qui est aussi bien partagée par les quatre disciplines, c'est comprendre. Et expliquer. Donc représenter, comprendre, expliquer, on trouve les comprendre, expliquer, souvent on les associe. Ils sont donc trois fonctions plus consensuelles, d'accord, entre les disciplines. Des fonctions retenues beaucoup plus spécifiquement par les mathématiques, il y a servir de référence, en SPC interpréter, en technologie on retrouve l'observation, donc le modèle pour observer, et en SVT on trouve aussi très très fortement permettre des analogies. Voilà. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure ensemble. Il me reste 5 minutes, Michel. Il faut que je me grouille. Je ne sais pas, il y a encore les formes. Je peux dire les formes. Hein, mais c'est pour savoir si je vais vite ou pas vite. Donc, concernant les formes des modèles, alors, plusieurs auteurs ici, et vous voyez que, suivant les auteurs, on catégorise d'une façon différente les modèles. Modèle physique et matériel, modèle mathématique, modèle non mathématique. On peut se placer sur des modèles qui sont matériels ou conceptuels, formels ou non formels, qui vont intervenir. Bon, en gros, l'idée, c'est est-ce que c'est un modèle qui existe sous forme d'un objet matériel qu'on peut manipuler ? Est-ce que c'est un modèle qui met en jeu les mathématiques ? Ou est-ce que c'est un modèle conceptuel de symbolisation, pas obligatoirement par le langage ou par des modèles mathématiques ? Il y a pas mal de façons de faire. Nous, on avait proposé des exemples, plutôt. Donc, toujours les mêmes couleurs. L'exemple le plus retenu de façon le plus consensuelle, c'est le schéma, qui pour nous est un modèle plutôt conceptuel, mais pas obligatoirement mathématique. Donc le schéma, oui, j'avais toujours mis. En mathématiques et en SPC, une proximité d'intérêt, enfin de pas d'intérêt, mais de modèle sous forme de formules mathématiques. Et voyez combien c'est différent là, combien les maths et les SPC sont regroupées et différentes de la technologie et des SVT. Hein. Là, c'est pas pour.
Ils sont tout petits.
Voilà. Oui, je pourrais faire avec, mais pas ma souris, ta souris peut-être. On a la même association pour tout ce qui est construction mentale entre maths et SPC et très peu d'intérêt, enfin très peu de manifestation de ce type de modèle, de ce type de forme de modèle en SVT et technologie. Et même les textes regroupent plutôt maths et SVT et SPC et laissent plutôt plus. Bon, c'est moins fort, mais laisse plus de côté techno et SVT. Par contre, technologie SVT, il y a la maquette qui ressort de façon très forte, donc un modèle matériel qu'on peut manipuler, etc. qui est effectivement utilisé à la fois en technologie et en SVT. Les logiciels de simulation, qui sont en fait des sortes de maquettes numériques, hein, des éléments qui vont permettre de simuler, de faire semblant qu'on utilise le réel, de rentrer dans des objets ou dans des phénomènes pour les modéliser. Et les animations, qui sont encore pas très loin, sauf que pour les animations, vous voyez que les physiciens sont aussi intéressés quand même, physique-chimie, par les animations. Rapidement, les exemples de modèles. On avait demandé aussi aux gens de donner deux exemples de modèles spécifiques de leur discipline. Et les résultats, donc, qui étaient des réponses ouvertes dans des champs, c'était l'écriture, les gens ont écrit des choses, ont été traités, recodés, et puis vous avez là des nuages de termes qui montrent, écrits le plus gros possible, les exemples qui ont été le plus cités. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Hein. Alors si on fait un petit zoom, ben voilà les mathématiques. Comme j'ai pas beaucoup, enfin je pense qu'il faut qu'on garde un peu de temps pour discuter. Donc je vais juste vous les montrer, puis après comme ça vous me direz ce que vous en pensez, plutôt que de vous relire ce qui est écrit. Donc quand vous avez bien vu les maths, vous me dites, c'est bon, c'est bon là, hein, les maths, c'est bon. Hein. Ça c'est SPC, ouais, le modèle de l'atome est quand même important. Ça c'est SVT, avec la tectonique des plaques qui est très importante. Et de l'ADN. Mais quand même une majorité de modèles plutôt géologiques que biologiques. Hein. Et en technologie, c'est la maquette qui arrive devant. Voilà. Ah si, si ça je dis aussi. Alors, je voudrais vous parler de d'une question qui était dans chacune de ces parties sur problème, hypothèse, expérience et modèle. La dernière question de chacune de ces parties était, pour vous, est-ce que le terme, alors problème, hypothèse, expérience ou modèle, a le même sens dans votre discipline quand et étaient déclinées les trois autres disciplines. D'accord ? Et donc à partir de ça, on peut avoir une idée de la proximité ressentie sur ces termes avec les autres disciplines. Alors j'ai placé les quatre disciplines dans ces espèces de formes là. Plus près, plus elles se disaient proches. Donc les deux disciplines qui sortent le plus proches, ce sont SVT, SPC, les sciences expérimentales, la technologie un peu plus loin, et les mathématiques sont, les enseignants de mathématiques, c'est eux qui mettent le plus de distance, pas de distance avec leurs collègues, mais de distance sur ces termes et la signification de ces termes. Hein. Attention. Hein. Après, j'ai représenté entre chaque discipline, par une flèche, et ce que j'écris dessus, c'est le terme qui est le plus proche, celui qui a reçu le plus de « oui, ça a la même signification ». Donc vous voyez qu'entre les deux disciplines expérimentales, c'est l'expérience qui sort, on s'étonnerait pas trop. Entre SPC et technologie, c'est l'hypothèse. Moi, personnellement, ça m'a étonné, mais on peut en discuter ensemble. Et entre maths et SPC, eh bien, les physiciens chimistes pensent qu'ils partagent surtout des modèles avec les mathématiques, et les mathématiciens plus les problèmes. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer aussi que la discipline SPC est centrale. C'est elle que tous les autres trouvent le plus proche d'eux. C'est-à-dire, c'est la discipline pivot, si vous voulez. Et vous pouvez aussi remarquer que les flèches qui vont vers le rond du milieu SPC sont plus courtes que celles qui en partent. Ça veut dire que les trois autres disciplines se sentent plus proches des SPC que les SPC se sentent proches des autres. D'accord ? Voilà. Dernière chose que j'ai mis sur cette espèce de schéma, c'est les réponses « je ne sais pas ». C'est-à-dire « je ne sais pas dire si c'est oui ou si c'est non ». J'en sais rien, je ne sais pas ce que ça peut être. Par exemple, une hypothèse en technologie pour les enseignants de SVT ne voient même pas ce que ça peut être. C'est plus de 50% qui ne savent pas se prononcer. Les enseignants de SPC se questionnent plus sur les modèles en technologie. et les enseignants de technologie se questionnent plus sur les modèles en SVT, ce qui est intéressant parce que vous avez vu tout à l'heure que quand on regardait les formes et les fonctions des modèles, c'était en fait très proche entre les deux disciplines. Donc peut-être qu'on est plus proche qu'on ne le croit, et ce serait peut-être intéressant de travailler un peu plus ensemble. Et puis, les mathématiciens se demandent bien ce que peuvent être des modèles en technologie, et là c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein, les modèles de mathématiques. C'est une des choses à retenir, à mon avis pas la seule chose à retenir, mais c'est vrai que la technologie est mal connue des autres disciplines. Là, vous avez les différents auteurs de l'enquête, l'adresse pour télécharger le rapport si vous avez envie. Avec Michel, on a pensé à des pistes pour la collaboration et pour la formation, mais on vous propose peut-être d'en discuter tous ensemble avant de vous donner les nôtres qui n'ont pas plus de valeur que les vôtres, sauf qu'on y a pensé un peu plus avant, c'est tout.